Vous écoutez Europe 1, il est 12h30 et c'est le journal de la mi-journée avec Thierry Dagiral.
Bonjour Johanna, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, ce jeune homme de 27 ans disparu depuis une semaine au sud de Naples. Il serait tombé d'une falaise, mais les autorités ne parviennent pas à le localiser. Sa mère lance un appel à l'aide, les explications de Victor Dolande dans un instant. Dans ce journal, nous reviendrons sur les incendies dans l'Aude, 900 hectares partis en fumée. L'incendie est maîtrisé, mais les pompiers restent mobilisés. Un homme arrêté hier à l'aéroport d'Orly, il était armé d'un couteau en céramique. Il est toujours gardé à vue. Les informations de Guillaume Bié dans quelques minutes. C'est la polémique du jour. Deux ministres ont assisté à une corrida à Bayonne. Parmi eux, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Et ça ne passe vraiment pas auprès des associations de défense des animaux. Nous écouterons la réaction de la Fondation Brigitte Bardot. Avant 13h, notre balade d'été. Cette semaine, Justin Morin était dans la Drôme provençale. Il va nous emmener dans un lieu dit le Val des Nymphes, un lieu étrange que l'on dit habité. Et puis notre rendez-vous littéraire avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. Aujourd'hui, une intrigue psychologique sombre avec moi de l'écossais Chris Brookmeyer. Mais tout de suite, la météo. Valérie Darmon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Valérie, c'est variable au nord et du soleil au sud.
Absolument. Sur la moitié sud, le soleil s'impose depuis ce matin. Sur le nord-ouest, le temps est plus changeant. Sur l'ouest de la Bretagne, il commence même un petit peu à pleuvoir. Ce soir et la nuit prochaine, les pluies vont gagner toute la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais en se renforçant. Les maximales 21 à 27 sur le pays, 25 à 34 dans l'arrière-pays méditerranéen.
Le point complet avec vous Valérie, juste avant 13h et à 13h sur Europe 1, les meilleurs moments de la France bouge avec Raphaël Duchemin.
Europe 1.
D'abord donc ce Français porté disparu depuis vendredi dernier dans la région de Naples. L'homme de 27 ans a fait une chute lors d'une randonnée. Il a appelé les secours à qui il a dit qu'il avait les jambes brisées, mais il n'a pas pu être localisé. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Ses proches l'ont seulement appris lundi et depuis, ils sont nombreux sur place pour tenter de le retrouver, Victor.
Oui, les amis de Simon Gauthier, c'est son nom, ont tout de suite pris la direction de Policastro, ce petit village à 180 km au sud de Naples. Ils ont pu reconstituer une carte grâce aux données de l'ordinateur portable de ce Français de 27 ans. Il a consulté à plusieurs reprises le même itinéraire. Ils connaissent donc la zone où le chercher. Et donc depuis trois jours maintenant, 25 de ses amis sur place arpentent la côte escarpée de Policastro pour le retrouver. J'ai réussi à joindre une amie de Simon Gauthier. Elle est également sur place et elle demande plus d'aide des secours italiens et français.
Il faut que les choses bougent davantage. Enfin, je veux dire, mon ami s'est blessé, il est en danger. On est mort d'inquiétude, quoi. Donc pour nous, effectivement, ça va pas assez vite. On se sent un peu seul. Il faut qu'on ait plus de personnes sur place, qu'on nous aide, qu'on nous donne des moyens. Et on est là, on est des forces et on veut le retrouver. Et on le retrouvera.
Ses amis et sa famille réclament notamment l'envoi de pompiers formés à la haute montagne et de spéléologues. Du côté du ministère des Affaires étrangères, pour l'instant, rien ne filtre, aucune piste sur les moyens supplémentaires qui pourraient être dépêchés sur place. Et d'après nos informations, Simon Gauthier aurait suffisamment de vivres pour tenir 4 ou 5 jours. Des vivres qu'il a pu rationner, mais reste à savoir si son sac est accessible ou s'il a perdu ce sac dans sa chute.
Merci Victor. Victor Dolande pour Europe 1. L'incendie dans l'Aude a été maîtrisé. Ce sont 900 hectares de pinèdes et de broussailles qui sont partis en fumée. C'est l'un des plus gros feux de l'été. Près de 200 pompiers restent tout de même mobilisés. Écoutez le chef d'état-major de la zone sud, François Pradon.
Je vous confirme que le feu de l'Aude et ainsi que le feu de l'Hérault sont fixés et maîtrisés. Cela ne veut pas dire que les pompiers ne sont pas encore au travail, puisqu'il faut sécuriser longuement les lisières, puisque nous avons plusieurs kilomètres de lisières sur ces feux. Il faut noyer, comme l'on dit dans notre jargon, toute l'ensemble de la forêt pour éviter qu'elle reprenne si le vent venait à ressouffler sur ces surfaces dans les jours qui viennent. Il faut rester au moins 48-72 heures sur les feux pour éviter que le feu reprenne. On ne peut pas dire que c'est une victoire quand il y a un feu de 1000 hectares. On peut dire qu'on a limité la casse à de la forêt uniquement et qu'aucune habitation et surtout aucune personne n'a été touchée.
Voilà, François Pradon, invité ce matin de Sébastien Krebs dans la matinale.
Europe 1, il est 12h34.
Un homme arrêté hier après-midi à l'aéroport d'Orly avec un couteau en céramique dans ses bagages. Il avait passé les contrôles de sécurité et s'apprêtait à embarquer dans un vol pour Barcelone. Il est toujours en garde à vue, Guillaume Bié.
Oui, et tout l'enjeu de cette enquête, c'est de savoir s'il avait réellement des intentions violentes telles que sa famille l'a dénoncé. Car hier soir, un peu avant 18h, c'est sa sœur qui alerte la police. Elle donne le signalement de son frère en expliquant qu'il tient des propos incohérents et qu'il va commettre une attaque à bord de l'avion dans lequel il doit monter. En l'espace de 10 minutes, toutes les mesures ont été prises et cet homme a été arrêté en salle d'embarquement. Il n'était pas encore monté à bord du Boeing de Transavia. Les autres passagers ont été débarqués, l'avion isolé, fouillé, rien à signaler. En revanche, dans le bagage cabine du suspect, les policiers ont effectivement retrouvé une petite lame. En fait, il s'agit d'un objet publicitaire, d'après nos informations, qui n'a pas la forme d'un couteau. C'est peut-être pour cela que les agents de sûreté d'Orly ne l'ont pas détecté au rayon X. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une enquête administrative pour comprendre comment ils ont pu passer à côté. Sur le plan judiciaire, le passager, lui, a donc été placé en garde à vue. À ce stade, aucun projet d'action violente ne semble apparaître. Cet homme de 34 ans se rendait simplement à un concert de rap à Barcelone. Avant de partir, il aurait eu une dispute familiale mêlant sa compagne et sa sœur, d'où le coup de fil ensuite à la police, pour des raisons qui restent encore à éclaircir.
Les informations de Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. À retenir en bref, la grève chez Transavia. Hôtesses et stewards sont appelés à débrayer d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, mais la direction assure que 95% des vols sont assurés. La CGT dénonce de graves problèmes d'organisation et de sécurité des vols. Un week-end chargé sur les routes de France avec du monde prévu dans le sens des retours déjà, avec de l'Orange, de l'Occitanie jusqu'à Menton, mais aussi dans les Hautes-Alpes, la Lozère ou les Alpes de Haute-Provence. La journée orange également demain samedi. Alors bien sûr, toutes les stations balnéaires sont sur le pont pour ce long week-end du 15 août, de la détente pour certains, mais surtout une aubaine pour les professionnels du secteur et du tourisme, comme sur le bassin d'Arcachon où s'est rendu Mathieu Bock pour Europe 1.
Pendant que sur la scène devant la plage, les musiciens répètent avant le concert du soir, Geoffrey déballe des bouées et des maillots de bain. Pour ce jeune commerçant, ces quelques jours du week-end de l'Assomption représentent un chiffre d'affaires capital.
Une bonne partie du mois d'août, on va dire. C'est le maximum de la saison. Tout se joue, maintenant c'est la météo qui décide pour nous. Jusqu'à présent, elle est clémente. Après, on verra pendant le week-end. Apparemment, ça se corse un peu, mais bon, pour l'instant, c'est bien. Cette année, je suis seul, délibérément.
Pourquoi ? C'est trop cher d'embaucher quelqu'un ?
C'est cher, il y a un coût. Et puis, oui, compliqué le personnel. De plus en plus compliqué à gérer.
Un peu plus loin, au restaurant chez Diego, les stocks sont faits. Le problème n'est pas là. Non, ce qui inquiète Guillaume, le chef de rang, ce sont les plannings.
En ce moment, il y a 40 personnes qui travaillent chez nous. Là, c'est surtout les plannings, gérer les effectifs pour avoir le bon nombre de personnes, pour le travail qu'il y a et l'attente client surtout, qui est toujours la même malgré le monde. Actuellement, c'est la période tendue de la saison. En effectif, ça peut être tendu.
Pendant ces quelques jours, le bassin d'Arcachon est saturé, puisque en plus des 115 000 habitants qui vivent ici à l'année, les 175 000 places d'hébergement, que ce soit à l'hôtel, en camping ou chez l'habitant, sont toutes occupées. Arcachon, Mathieu Bock, Europe 1.
Et puis la crainte des commerçants de Biarritz, alors que le G7 s'y tiendra du 24 au 26 août prochain, des zones de sécurité ont été mises en place. Une grande partie de la ville sera bouclée pour accueillir la réunion des chefs d'État. Les commerçants envisagent déjà un manque à gagner considérable. Et justement, à quelques jours de ce sommet, un ressortissant allemand a été arrêté il y a une semaine en Côte d'Or et expulsé en Allemagne. Il a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif ce matin. Son arrêté d'expulsion a été abrogé, annonce son avocate. Cet homme est soupçonné par les autorités françaises d'être un activiste d'ultra-gauche, pouvant se livrer à des actes violents en marge du G7 la semaine prochaine, donc à Biarritz. Ce matin, la justice administrative lui a donc donné gain de cause. Mais pour autant, il ne pourra pas revenir en France car le ministère de l'Intérieur a pris un nouvel arrêté lui interdisant d'entrer dans l'Hexagone. On marque une pause et dans un instant, deux ministres qui assistent à une corrida et une polémique qui enfle. A tout de suite.
Europe 1, il est 12h39, la suite de votre édition de la mi-journée avec vous, Thierry Dagiral.
Et cette polémique qui grimpe, mercredi, deux ministres, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, et celui de l'Agriculture, Didier Guillaume, ont assisté à une corrida à Bayonne, où six taureaux ont été mis à mort. Condamnation immédiate des associations de défense des animaux. Écoutez Christophe Maril, le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot.
Un ministre en charge de la protection animale aller dans une arène pour prendre plaisir à voir un animal se faire torturer à mort, c'est absolument révoltant. C'est de la provocation, c'est renvoyer une image de, eh bien, on peut faire ce qu'on veut et c'est extrêmement choquant, c'est vraiment pas acceptable, sachant qu'effectivement la corrida, alors qu'elle est remise en cause partout, eh bien, en France comme toujours, dès lors qu'il s'agit de la protection animale, eh bien, on ne s'en occupe pas, voire on s'affiche et on se moque de ce combat. Brigitte Bardot, là, va intervenir justement auprès d'Edouard Philippe. l'équipe, on lui demande de retirer du portefeuille ministériel, donc du ministre de l'Agriculture, cette responsabilité sur la protection animale, puisque clairement il s'en moque. Et donc on crée un ministère dédié à la protection animale et qui répondra à une véritable attente sociétale.
Voilà le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, interrogée par Adrien Beck. On en a beaucoup parlé la semaine dernière de ces grèves en France des livreurs à domicile de la plateforme Deliveroo. Eh bien, Deliveroo est contraint de quitter l'Allemagne. Il n'a pas réussi à faire face à la concurrence sur ce secteur de la livraison de repas à domicile par des coursiers à vélo ou en scooter. Mais comme en France, où les livreurs se plaignent du manque de considération de la plateforme et de ses baisses de tarifs, outre-Rhin, on ne peut pas vraiment dire que Deliveroo ait mis les formes pour avertir ses désormais ex-travailleurs Hélène Kohl.
Les livreurs ont été informés après les clients. Lucas était l'un des 1100 coursiers à vélo de Deliveroo en Allemagne. Ce matin, c'est définitivement terminé, plus aucune commande à acheminer, après seulement 4 jours de préavis. Il y a eu un mail, puis un bip sur son téléphone portable. L'application lui signifiait, avec une notification impersonnelle, le montant de son indemnité, 219 €, après 2 ans et demi de travail.
Il se base sur les 3 dernières semaines. Mais comme c'était l'été, l'activité était au ralenti et j'ai peu gagné. D'autres livreurs étaient en vacances et trouvent vraiment injuste que l'indemnité de 10 jours ne soit pas calculée sur le total de nos livraisons.
L'entreprise lui propose bien une rallonge d'indemnité de 2 semaines de plus, mais à condition que l'étudiant signe un document officiel. Il a peur de ne plus pouvoir postuler chez un concurrent après ça. Reste la solution judiciaire. Plusieurs dizaines de livreurs de la capitale allemande viennent de se regrouper pour porter plainte ensemble contre les méthodes de leur licenciement. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Europe 1, il est midi 42, la suite de votre journal, Thierry Dagira.
Alors, on va s'intéresser maintenant à la doyenne européenne. Elle est française, c'est une sœur. Sœur André, elle a 115 ans et toute sa tête, Yasmine Akatou.
Oui, effectivement, Sœur André a une mémoire d'éléphant et elle est très tatillonne sur son âge. Sœur Marie-Pierre côtoie la doyenne tous les jours.
Petit exemple, il ne faut pas se tromper sur son âge. Hier, je la promenais dans le jardin. Il y avait des personnes qui étaient là. Et j'ai dit à ces personnes, c'est notre doyenne qui a 115 ans. Elle m'a dit non, je n'ai pas 115 ans, j'ai 115 ans et demi. Effectivement, depuis le 11 août, elle a 115 ans et demi.
Sœur Marie-Pierre est la mère supérieure de l'EHPAD où réside Sœur André depuis 2009. Lucille Randon, de son vrai nom, est en maison de retraite depuis 1979. Avant cela, elle a eu une vie bien remplie. Née en février 1904 à Alès, dans le Gard, elle vit la Première Guerre mondiale dès l'âge de 10 ans. Durant plusieurs années, Lucille Randon est gouvernante. Elle grandit dans une famille non-croyante, mais décide d'entrer dans les ordres en 1944 à 41 ans. Aujourd'hui, Sœur André ne voit presque plus et ne se déplace qu'en fauteuil roulant. Pour autant, la doyenne tient à rester active.
Elle participe à la messe tous les jours, à 11h. Le soir, elle participe à ce temps de prière que nous avons suivi des vêpres. Elle aime bien qu'on la sorte dans le jardin. Elle aime bien parler avec les gens. Là, elle est intarissable.
Et consécration pour cette sœur, la doyenne a reçu un chapelet béni par le pape François puisqu'elle est aussi la plus âgée des religieuses dans le monde.
Longue vie, il faut savoir que sur la planète, c'est une japonaise qui est la doyenne. Elle n'a qu'un an de plus que sœur André. Merci beaucoup, Yasmine Akatou. Cette histoire un peu folle, mais bien réelle à présent, le président américain lorgne sur le Groenland qu'il aimerait bien racheter au Danemark, non pas pour lui, mais pour le compte des États-Unis. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump semble assez déterminé. Il en a parlé d'ailleurs plusieurs fois à ses proches.
Ah oui, acheter le Groenland, Donald Trump l'a évoqué dans des réunions, dans des dîners, dans des conversations informelles. Selon le Wall Street Journal, le président a même demandé au conseiller juridique de la Maison-Blanche de vérifier la légalité d'une telle opération. Pour l'ancien promoteur immobilier, forcément, acheter la plus grande île du monde, ce serait un coût énorme. Mais pourquoi cet intérêt soudain pour ce territoire couvert aux 3/4 de glace et peuplé seulement de 56 000 habitants? Eh bien, situé techniquement en Amérique du Nord, le Groenland a une importance stratégique pour les États-Unis. Ils y ont d'ailleurs une base militaire avec un radar pour détecter les tirs de missiles. L'île est riche aussi en ressources naturelles. Et puis Donald Trump laisserait un héritage historique avec une telle extension du territoire américain. Est-ce un projet vraiment sérieux? Les proches du président cités par le journal sont divisés. En tout cas, ce ne serait pas la première tentative. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le président Truman avait offert 100 millions de dollars au Danemark pour racheter le Groenland. Refus catégorique. Hasard du calendrier, Donald Trump doit justement se rendre à Copenhague dans 2 semaines.
Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Nouvelle pause dans votre journal de la mi-journée. Dans un instant, on parle foot avec Strasbourg qui s'est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa. On revient.
Europe 1, il est midi 46, la suite de votre édition de la mi-journée avec vous Thierry Dagiral.
Et avec Arthur Mbaché, notre correspondant dans l'Est. Bonjour Arthur.
Bonjour Thierry.
Les Strasbourgeois se sont qualifiés hier soir pour les barrages de la Ligue Europa. Ils ont battu les Bulgares de Plovdiv 1-0. Ça sent bon l'Europe Arthur, même s'il reste quand même un gros morceau sur leur chemin.
Et ça va chauffer jeudi prochain à la Méno pour ce qu'il faut appeler apparemment, Thierry, accrochez-vous, le derby de la saucisse, puisque le RC Strasbourg reçoit les voisins de l'Eintracht Francfort. Il y a 1500 places dans la tribune visiteur ici à la Méno. 15 000 supporters allemands sont attendus en ville. Écoutez ce qu'en pensent ces Strasbourgeois au micro de Patrick Müller hier soir au stade.
Bah, ce sera le meilleur public de France contre le meilleur public d'Allemagne. Bon, on espère les battre.
Il va tout donner parce que là, il est parti de CFA, il a réussi à tout remonter. Alors là, forcément, il est obligé de gagner. Avec un public comme ça, il peut que gagner, je le sais.
Voilà le bel enthousiasme des tribunes. À présent, la lucidité vue du terrain avec l'excellent Dimitri Liénard, le numéro 11 strasbourgeois.
Francfort, sur les équipes qu'on avait dans notre chapeau, on s'est dit honnêtement, entre nous, il faut éviter Francfort. Voilà, ça va être très 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 compliqué, ça va être une grosse marche à franchir, mais j'espère qu'on va pouvoir faire le job du mieux possible et tout est faisable avec Strasbourg.
Voilà un peu de la belle ambiance hier soir à la Méno. Sachez que Francfort, c'est demi-finale de Ligue Europa l'an dernier quand même. Ce sera un match d'un autre tonneau après la victoire sans éclat, disons-le, de Strasbourg hier soir à 1-0 contre des Bulgares de Plovdiv, pas bon du tout. Mais si ça passe face à Francfort, ce sera la vraie Coupe d'Europe, phase de groupe de Ligue Europa. 14 ans après la dernière aventure européenne du RCS, 8 ans après la relégation en 5e division.
Et de bien belles soirées à venir pour vous, Arthur Mbaché, correspondant d'Europa à Strasbourg. Et puis ce soir en Ligue 1, deuxième journée, la belle affiche Lyon-Angers. Vous savez, Johanna, que Paris, l'été, se transforme en immense plateau de cinéma. En effet, moins de monde dans la capitale, l'occasion rêvée, bien sûr, pour les réalisateurs de tourner leurs films. D'après la Mission Cinéma de Paris, 700 jours de tournage ont déjà eu lieu cet été.
Voilà.
Caroline Baudry s'est rendue sur le plateau de l'un d'entre eux. Reportage.
Moteur, action.
Notre gouvernement est résolu à...
Face à la caméra, Lambert Wilson incarne un Charles de Gaulle déterminé. Pour son film sur la Seconde Guerre mondiale, le réalisateur Gabriel Leboumin tourne entre autres à l'intérieur de bâtiments historiques parisiens. C'est vrai qu'il fait chaud sous les costumes d'époque, mais selon lui, la saison est idéale pour filmer dans ces lieux, vidés de leurs occupants.
On a la possibilité d'investir des lieux qui sont des lieux publics et finalement de les projeter dans des espaces qui sont des espaces de fiction. On a pu reconstituer au sein d'un hôtel particulier du 7e arrondissement un feu, littéralement un auto d'affé à l'intérieur de la cour. On a eu le sentiment de pouvoir travailler vraiment comme si nous étions chez nous.
Mais pour d'autres réalisateurs, c'est toute une rue ou un quartier qu'il faut replonger dans le passé. Michel Gomez de la Mission Cinéma de Paris reçoit cet été beaucoup de demandes, parfois insolites.
Cacher les passages piétons, etc. Masquer les feux rouges, habiller les rues avec des figurants, avec des voitures à chevaux. L'avantage de tourner l'été, c'est que... les Parisiens sont moins présents, donc il y a des neutralisations de circulation, il y a des stationnements un peu imposants qui sont un peu plus faciles à faire pendant ces périodes-là.
Une de ses demandes les plus folles de l'été, mettre des chevaux au grand galop sur un pont, puis dans les rues du centre de Paris.
Le reportage signé Caroline Baudry.
À présent, Thierry Dagiral, c'est l'heure de la dernière chronique de l'été de la semaine.
De la semaine, oui, aujourd'hui on va vous emmène dans un lieu gorgé de mystères. Nous sommes... dans la Drôme provençale, près du village de la Garde à Démar, c'est l'un des plus beaux villages de France. En contrebas de la route, il y a un lieu dit, le Val des Nymphes, un lieu que certains disent habité par des êtres et chargé d'énergie. Suivez-nous, Justin Morin nous y emmène.
Une clairière avec au centre une église romane datant du XIIe siècle, des chênes noueux, une fontaine naturelle, un bassin creusé dans la roche. On dit que jadis les nymphes venaient s'y baigner, quelques promeneurs s'y arrêtent.
La nature nous entoure. Quand vous voyez déjà la grosseur des arbres, ça vous parle, quoi.
Il y a quelque chose.
Ouais. Oui, ouais, voilà, ouais.
On dirait que la nature et les pierres nous observent et qu'il faut rester sage.
Que dire de ces bacs en pierre, appelés cuves lapidaires? On m'a aussi raconté qu'ils étaient utilisés auparavant pour des sacrifices.
Il y a une légende de Farfadé qui envoûterait les soirs de pleine lune à minuit, les gens. Et il ferait la fête avec les gens toute la nuit. Enfin, il y a beaucoup de légendes autour du Val des Neufs. Si on va au niveau de la petite crypte, c'est là où les gens se sentent pas bien, limite faire des malaises. Non ?
Vraiment ?
Ouais. Et la dernière fois que j'étais venue avec des amis, et justement, cachée d'aspirine, je suis pas bien. On fait demi-tour. Et du moment qu'on partait en fait de la crypte, ben, ça allait beaucoup mieux pour mes amis. Donc,
C'est vrai ça ?
Ouais, c'est vrai, ouais.
Et alors il faut imaginer cette crypte qui est vraiment dissimulée sous la végétation. On va rentrer à l'intérieur. Voilà. Et à l'intérieur de cette crypte, il n'y a rien. Il y a des feuilles mortes au sol. C'est pas très très rassurant ici, donc on va sortir. Alors que nous raconte l'histoire, je me suis raccroché à une visite pour le savoir.
Alors des nymphes ici, à part ceux qui viennent de la pleine lune en ayant fumé je ne sais pas quoi. Non. Les druides.
Les faits sont tenaces, c'est un ancien site gallo-romain. Les cuves lapidaires, des bacs pour presser le raisin. Le bassin des nymphes, creusé par un baron du XVIIIe siècle qui voulait faire de cet endroit son Versailles à lui. Même la crypte faisait partie du décor. Georges a suivi la visite.
Maintenant qu'on sait que c'est un bassin qui servait à ceci, qui servait à cela, ça casse tout. Ça casse la légende. Oui, c'est merveilleux les légendes.
Mais qu'est-ce que vous allez retenir alors, vous, la légende ou les faits?
Moi, je vais inventer une nouvelle légende pour la rendre encore plus riche. On va la faire autour d'une table tout à l'heure avec quelques bouteilles.
Quand les faits se sont transformés en légende, publier la légende, disait le réalisateur américain John Ford, le Val des Nymphes s'y prête plutôt bien.
Voilà, le superbe reportage signé Justin Morin. Et les meilleurs moments de cette semaine de Justin Morin dans la Drôme Provençale, ce sera demain à réécouter entre 13h et 14h sur Europe 1.
Notre rendez-vous littéraire de l'été, comme tous les jours à cette heure-ci, Thierry.
Avec la librairie Mola à Bordeaux, on va parler aujourd'hui d'un roman noir que signe un écrivain écossais, Chris Brockmeyer. Il nous embarque dans une intrigue psychologique sombre avec moi, paru chez Métallier. Stéphane Place.
Un immense coup de cœur pour ce polar écossais, bien malin le lecteur, capable de deviner le dénouement de ce thriller bluffant. Sombre avec moi nous conduit d'abord dans une salle d'audience. Diana Jagger, chirurgienne très douée mais plutôt antipathique, fait face à ses juges. Son mari a mystérieusement disparu dans un accident de voiture, une chute vertigineuse dans les eaux glacées de cette Écosse brumeuse. Une sortie de route qui met fin à un conte de fées, du moins en apparence. La jeune veuve semble se remettre bien vite de la perte de son époux, au point d'éveiller les soupçons de la police. Au même moment, la sœur du défunt, elle, sollicite un journaliste pour qu'il enquête également sur les circonstances de ce drame. Sixtine de Beaufort, libraire chez Mola, vous recommande ce roman policier.
Tout le roman va nous amener à comprendre comment on est arrivé à ce procès. On va retracer l'histoire du couple formé par Peter et Diana Jagger, un couple qui s'est mis ensemble très rapidement, marié très vite, installé très vite, ce qui finalement paraît assez louche. Et aussi, surtout, on va découvrir qui est Diana Jagger. En fait, c'est une chirurgienne réputée. On va découvrir qu'elle a eu, par le passé, un blog nommé Scalpel Girl, dans lequel elle dénonçait le machisme et le sexisme dans le milieu chirurgical, mais aussi dans le milieu médical de manière plus générale. Et en fait, c'est ça qui va la mener à sa perte, parce qu'elle va être percée à jour et son nom va être affiché sur la place publique. Elle va devoir changer d'hôpital, etc. Ça va avoir une part importante dans la personne qu'elle est aujourd'hui et dans son procès.
Une enquête à tiroir qui vous fait repousser sans cesse vos autres obligations, comme celle très originale de passer à table ou d'aller vous coucher. L'impatience de connaître la suite est permanente. Chris Brockmeyer, l'auteur, ne nous laisse pas une seconde de répit et pose finalement une question assez simple. Connaît-on vraiment celui ou celle dont on tombe amoureux ?
Six mois plus tard, il se marie. Et six mois plus tard, il est mort. La question est, est-ce qu'elle l'a tué et est-ce qu'il le méritait? Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous tombez amoureux très vite, est-ce que vous vous mentez à vous-même? Est-ce que vous ignorez ses défauts? Est-ce que vous vous dites que c'est le parfait partenaire pour vous? Est-ce que vous ignorez le danger? Les êtres humains sont très forts pour ignorer le danger quand ils veulent quelque chose très fort. Nous ignorons nos propres peurs parce que nous voulons penser que tout va bien se passer, surtout dans une relation. Le livre est sur les mensonges très dangereux qu'on se raconte dans une relation.
Sombre avec moi, un polar exceptionnel, intense et une fin qui va vous scotcher.
Stéphane Place, que l'on retrouve bien sûr lundi avec grand plaisir. On fait un point sur la météo dans un instant.
Raphaël Duchemin, bonjour Raphaël.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 dans un instant. Rendez-vous avec La France Bouge et aujourd'hui vous êtes peut-être à la plage en ce moment. Difficile de bouquiner, nous on a pour vous des livres audio. À tout de suite.
Europe 1, il est 12h55. Un projet de cuisine, c'est avant tout une histoire de style. Pour trouver le vôtre, pas de panique. Minimaliste, scandinave, industriel ou naturel, toutes les tendances sont chez Ixina. Pour trouver l'inspiration, rendez-vous dans l'un des 150 magasins Ixina ou sur le site ixina.fr. Ixina est la meilleure chaîne de magasins de l'année. Quand Ixina, tout va.
Once Upon a Time in Hollywood, le 9e film de Quentin Tarantino. Une réussite pour le Figaro, immense pour Cinématiseur, grandiose pour le Parisien, époustouflant pour 20 minutes. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, casting 4 étoiles pour le film événement de l'été. Once Upon a Time in Hollywood.
Dans cette ville, tout peut changer d'un seul coup.
Actuellement au cinéma.
Madame Darmon, bonjour.
Rebonjour Thierry Dagiral et rebonjour surtout à tous.
Bon, dites donc, vous arrivez avec de mauvaises nouvelles, un week-end mitigé.
Ah là là, ne m'en parlez pas. Bon. Surtout dimanche, on va y venir tout à l'heure, ouais. Là, dans un instant. Alors déjà demain, après une nuit bien pluvieuse sur la Bretagne et la Normandie, vous allez retrouver progressivement un temps sec et plus lumineux l'après-midi. Des Pays de la Loire et du Poitou au centre, au bassin parisien, sur le reste des Hauts-de-France, le nord de la Bourgogne, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, il va pleuvoir demain. Toute la journée, du matin jusqu'au soir. Sur l'Alsace et le nord de la Franche-Comté, la matinée est voilée avant que la pluie ne tombe à partir de la mi-journée. Et enfin, beau temps sur le sud, excepté sur les plages du Languedoc-Roussillon jusqu'au littoral varois, où là, les entrées maritimes maintiennent une ambiance assez tristoune toute la journée aussi. Donc, pas grand monde d'épargner demain. Ouais. Enfin, la moitié sud est quand même au soleil, un petit peu comme aujourd'hui tout de même.
On regarde le thermomètre.
Oui, alors le thermomètre, donc il fera demain matin entre 13 et 17 degrés en général, 16 à 20 sur les bords de la Méditerranée. Et l'après-midi, les températures qui seront très contrastées forcément avec cette météo-là. Il fera 20 à 25 de la Bretagne et des Pays de la Loire et du Poitou au Benelux. Ailleurs, plus de chaleur avec 26 à 31, 32 à 33 sur la moitié sud, 34 à 35 dans l'arrière-pays méditerranéen. Je vous donne quelques maximales en ce samedi après-midi. Ouais. 34 à Carcassonne, à Grenoble et à Lyon. 32 à Nîmes, à Toulouse et Clermont-Ferrand. 30 degrés à Montluçon, à Rodez et à Marseille. 28 à Angoulême, 26 à Bourges et Besançon. 24 à Tours, Blois et Colmar. À Paris, 23 degrés sous la pluie. 22 à Charleville, sous la pluie. 21 à Troyes, sous la pluie. Et 20 degrés à Quimper, sous la pluie.
Et dimanche, pas mieux ?
Eh bien, dimanche, pas mieux du tout. C'est même pire, en fait, pour tout vous dire. Parce que c'est simple. Je vais commencer par là où il y a le soleil. Ben, c'est l'extrême sud-est, c'est-à-dire les Alpes-Maritimes, le Mercantour et la basse vallée du Rhône. Partout ailleurs, c'est de la pluie, voire des orages d'ailleurs dans le Massif central et dans le Lyonnais. Et retour tout de même des éclaircies le long de la Manche et sur la pointe bretonne, mais enfin dans beaucoup de nuages.
J'entendais
et des rafales
Cabrol,
de vent.
Cabrol, ce matin, il disait un matinal jusqu'au 25 août, c'est mauvais.
Oui, et de toute façon, je suis toujours
confirmé
d'accord avec Laurent
Cabrol.
Laurent Cabrol,
toujours.
Non, c'est mauvais jusqu'au 25 à peu près.
Pas top non plus. Hein.
Non, pas terrible. C'est beaucoup très nuageux partout, mais pas beaucoup de pluie en revanche.
Heureusement que vous êtes notre rayon de soleil, Valérie Darmon. Merci.
Europe 1, il est 12h58. Le rappel des grands titres de ce vendredi 15 août. 16 août, Thierry Dagiral.
J'avais marqué 15, oui, d'accord. Voilà. C'est la polémique qui enfle. Deux ministres de la cohésion des territoires et surtout de l'agriculture qui ont assisté mercredi à Bayonne à une corrida, protestation des associations de défense des animaux. On a pu entendre le coup de colère de Christophe Marie, le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, dans le journal. Un Français de 27 ans disparu depuis une semaine maintenant au sud de Naples alors qu'il faisait une randonnée. Il serait tombé d'une falaise mais les autorités ne parviennent pas à le localiser. Ses proches sont sur place et sa mère a lancé un appel à l'aide. Un homme armé d'un couteau en céramique a été interpellé à Orly hier. L'homme est toujours en garde à vue. Selon les policiers, il tiendrait des propos incohérents et bizarres. Il privilégie pour l'heure la thèse d'un différend familial. Un activiste allemand qui travaillait en France comme saisonnier a été reconduit à la frontière avec interdiction de revenir sur le territoire français avant le 29 août. Ce militant de l'ultra-gauche est soupçonné d'avoir voulu participer aux contre-manifestations en marge du G7. G7 qui se tiendra à Biarritz du 24 au 26 août prochain. Dans l'Aude, les feux ont été maîtrisés. 900 hectares sont partis en fumée. Les pompiers restent sur place pour sécuriser l'endroit. Ils sont près de 200 sur zone. La route des retours, déjà pour certains, ce sera orange dans le sens des retours, notamment dans le sud de la France. Journée orange également demain, samedi.
Merci Thierry Dagiral. Il est 13h, on se voit tout à l'heure à 18h pour votre grand journal du soir.
À tout à l'heure.
Et on retrouve Raphaël Duchemin pour La France Bouge.